ECOGES, éco-citoyenneté,
apprendre à économiser et à partager,
apprendre à réduire ses déchets et à limiter la pollution.
Soyez écolo en écoutant votre magazine Planète Environnement, agir pour notre planète, sur votre radio locale,
Radio Alpes-Mancelles 106.3 FM et sur le www.ram72.net.
Carbon Forest permet aux entreprises d'acheter le carbone en forêt. Pour nous en dire plus, pour en savoir plus sur cette thématique, nous recevons Pascal Yvon. Bonjour.
Bonjour.
Alors tout d'abord, si vous voulez bien, est-ce que vous pouvez nous présenter, qu'est-ce que Carbon Forest ?
Alors écoutez, Carbon Forest est une société commerciale sartoise qui réunit des propriétaires forestiers du département pour une superficie de 6000 hectares, donc c'est important, et qui se sont regroupés pour vendre des droits environnementaux. Donc en fait, l'objet, c'est de permettre à des pollueurs de compenser. Et à ce titre, notre premier client, c'est l'Automobile Club de l'Ouest. Et c'est nous qui assurons la compensation environnementale de la course des 24 heures du Mans.
Alors concrètement, tout ça, comment ça fonctionne? Comment l'idée vous est bienvenue un jour en vous disant, si on fonctionnait comme ça?
L'idée est venue d'une association dont on fait partie et dont je suis vice-président pour la France depuis plus d'une dizaine d'années, qui s'appelle ProSilva. Et ProSilva, à ne pas confondre avec FranSilva. FranSilva, c'est l'association des propriétaires forestiers en France. Mais ProSilva, c'est une association qui existe depuis 1989 et a pour but de promouvoir une sylviculture plus proche de la nature. C'est-à-dire qu'on ne fait pas du tout de coupe rase comme on peut le faire dans beaucoup de forêts. Et donc on gère des massifs forestiers en continu, je dirais, avec une certaine exemplarité écologique. À ce titre, on est aujourd'hui formateur pour l'Office national des forêts. On a eu une promotion cette année de 38 ingénieurs forestiers de l'Office qui sont passés dans nos murs pour qu'on leur explique comment on faisait, pour qu'ils fassent la même chose. Et aujourd'hui, l'Office gère, sur le plan national, plus de 500 000 hectares de cette manière-là. Donc c'est pas du tout quelque chose d'anecdotique, c'est quelque chose qui marche. Alors d'un point de vue du carbone, parce que c'est un objet plus de la conversation qu'on a, il se trouve qu'un arbre, vous savez qu'un arbre c'est de la fibre de carbone, par définition. Quand il pousse, il puise dans l'air du CO2 qu'on rejette nous en respirant ou que rejettent aussi les voitures, enfin voilà. Donc il puise ce CO2 et le CO2 va être fixé dans le tronc de l'arbre et dans les branches et dans les racines. Et ce qu'il y a de très intéressant, c'est que quand un arbre pousse, il va stocker à peu près un tiers du CO2 dans la partie que tout le monde voit, le tronc et les branches. Il y en a un tiers qui va aller dans le système racinaire, mais il y en a un autre tiers, et ça c'est beaucoup moins connu, qui va être injecté directement dans le sol. Et ce tiers-là est intéressant parce que il va se transformer, il va devenir il va passer de l'état gazeux à l'état solide pour se transformer grâce à l'action de bactéries qu'il y a dans le sol quand le sol fonctionne bien. Et il va se transformer en autre chose. Et ces autres choses, c'est à la fois donc des minéraux, mais aussi des mycorhizes, c'est-à-dire des tout petits filaments qui vont réunir les racines des arbres entre eux. Et il y a un livre qui est sorti il y a un an et demi, écrit par Van Leeuwen, dont tout le monde a entendu parler, qui s'appelle « La vie cachée des arbres ». Et vous pouvez relire ce livre et penser à ce que je viens de dire, c'est un peu ça, voilà. Mais Van Leeuwen, sur certains points, va trop loin, et sur d'autres points, il va pas assez loin. Mais globalement, la forêt fonctionne d'une manière qu'on ne voit pas.
Non,
et donc, nous, ce carbone, l'objet de notre société, c'est en fait non seulement de stocker mieux, de stocker plus dans le sol, mais aussi d'éviter que ça ressorte. Parce que à chaque fois que vous faites une coupe rase, en réalité, vous agissez contre l'environnement et vous faites sortir le carbone qui est contenu dans le sol de la manière dont je viens de vous expliquer qu'il se constitue.
Alors concrètement, comment ça fonctionne? Par exemple, une entreprise qui souhaite compenser son empreinte carbone, ça fonctionne ensuite par rapport à...
Aujourd'hui, toutes les grandes entreprises sont obligées de faire leur bilan carbone. Bon, mais toute entreprise qui a envie de le faire peut le faire. Donc, on vient nous voir, on nous demande de faire un bilan carbone on peut vous faire notre bilan carbone, voilà, scope 1, scope 2, scope 3, c'est des niveaux différents, mmh. on va dire, de pollution. Hein. Ensuite, on va vous trouver une forêt dans votre secteur, de manière à être le plus localisé possible par rapport à la source émettrice de pollution, hein. De la même manière que pour les 24 heures du Mans, eh bien, ce sont les forêts qui sont le long du circuit, mais aussi la forêt de Vibraye. Pourquoi la forêt de Vibraye? Parce que la forêt de Vibraye, eh bien, elle était à la, tout le long de la pointe du premier circuit du premier Grand Prix de France en 1906. Donc il y a quelque chose de symbolique là-dedans, c'est pour ça qu'on a fait ça. Donc vous avez une entreprise, on vous calcule votre bilan carbone, trouve une forêt localisée dans le coin, et après on vous vend des tonnes de carbone, tout ça dans un cadre légal, et notamment dans le cadre du label bas carbone, c'est-à-dire voilà, qui est en construction par le ministère de l'Environnement.
Depuis la maternelle, j'entends parler d'effet de serre. La maîtresse nous disait penser à éteindre les lumières. C'est mieux pour la planète si on devient tous responsables. Alors faites attention, ne gaspillez pas l'eau potable. Et puis en grandissant, j'ai remarqué que les grands magasins, toute la nuit durant, laissaient allumer leurs vitrines. C'est peut-être que leurs gérants ne sont pas éco-citoyens, ou bien qu'ils sont sûrement en overdose de caféine.
C'est le réchauffement climatique qui nous fait bouillir la cervelle. Cette croissance frénétique, mélancolique qui nous harcèle. C'est le réchauffement climatique qui nous fait bouillir la cervelle. Cette croissance frénétique, mélancolique qui nous harcèle.
Mon prof éco disait le chômage est une évidence. Pour être compétitif, rien ne vaut quelques licenciements. Tu sais, le capitalisme fait pas dans les bons sentiments. J'ai lu 2-3 bouquins pour mieux comprendre l'économie. Des ans, une synthèse, la guerre ou la consommation. Chômeur consommateur, est-ce la bonne alchimie? Ou peut-être que la croissance n'est pas la bonne appellation?
La croissance n'est pas la bonne appellation. C'est le réchauffement climatique qui nous fait bouillir la cervelle. Cette croissance frénétique, mélancolique qui nous harcèle. C'est le réchauffement climatique qui nous fait bouillir la cervelle. Cette croissance frénétique, mélancolique qui nous harcèle.
On va trouver la bonne recette. Mais est-ce que la croissance peut devenir écologique?
Tandis que ça perfond l'ours polaire sur Vitoso.
On voit des pétroliers rêver de migration arctique.
Se frayer un chemin entre ces continents nouveaux.
C'est le réchauffement climatique qui nous fait bouillir la cervelle. Croissance frénétique, mélancolique qui nous harcèle. C'est le réchauffement climatique qui nous fait bouillir la cervelle. Cette croissance frénétique, mélancolique qui nous harcèle. C'est le réchauffement climatique qui nous fait bouillir la cervelle. Cette croissance frénétique, mélancolique qui nous harcèle.
Vous êtes toujours à l'écoute de votre magazine Planète Environnement sur l'antenne de Radio Alpes-Mancelles 106.3 FM. Nous retrouvons Pascal Yvon pour la société Carbon Forest qui permet aux entreprises notamment d'agir en faveur de l'environnement en compensant leur empreinte carbone.
Alors vous avez cité beaucoup de choses. Pour avant d'aller sur cette partie bas carbone, si je peux me permettre, comment on fait un bilan carbone? Qu'est-ce qu'on prend en compte pour pouvoir comptabiliser et voir après ce cheminement?
Alors il y a différents scopes, on appelle ça. Le scope 1, c'est les émissions directes d'une entreprise. Par exemple, les voitures, les émissions des voitures, le chauffage de l'entreprise. Voilà. Le scope 2, on va aller plus loin. On va notamment intégrer, par exemple, les fournisseurs et puis d'autres paramètres plus fins et presque plus discutables. Hein. Et le scope 3, alors là, on va même prendre en compte la question de la clientèle, qu'on va rentrer dans le calcul de l'émission d'entreprise. Parce que dans le scope 3, on va considérer que finalement, c'est l'entreprise qui fait venir le client. Ce qui est vrai, d'ailleurs. Donc, si le client se déplace, donc un magasin, par exemple, un supermarché qui ferait son scope 3, eh bien, il tiendrait compte aussi des émissions, des voitures, des clients qui viennent sur son parking.
Alors concrètement, ensuite après, comment par rapport à ce chiffre, vous allouez entre guillemets, j'imagine, par tonne, par kilo, je sais pas comment ça fonctionne.
Alors on raisonne en tonnes de carbone parce que nous on parle surtout du carbone en fait qui s'est solidifié dans le sol. La plupart des autres projets parlent de tonnes de CO2. C'est 0,27 tonnes de carbone, donc il faut à peu près 4 tonnes de CO2 pour faire une tonne de carbone. Le problème, c'est que le CO2, dans un arbre, il n'y a pas de CO2, si vous voulez, il n'y a que du carbone. Le CO2, il a été cassé en petits morceaux, l'oxygène a été rendu à l'atmosphère pour que nous puissions respirer, et le carbone, il est rentré dans la fibre de l'arbre. Donc, nous, on parle en tonnes de carbone. Et puis, donc, à partir de là, si on considère qu'une entreprise émet tous les ans 100 tonnes de carbone, eh bien, on va lui vendre 100 tonnes de carbone. Voilà, en compensation, avec une garantie de stockage pendant une durée 40 ans, mais aussi avec une garantie complémentaire qui est qu'en fait, mais ça, on peut pas, en droit, on peut pas aller, on peut pas écrire 500 ans ou 1000 ans, parce qu'on sera tous morts et ça n'a pas de, ça n'a pas de valeur contractuelle. Par contre, on s'engage à ce que le carbone ne sorte pas, parce que nous, on fait pas de coupe rase. Et on fait pas de coupe rase, on fait pas de travail du sol, on fait pas de labour. C'est toutes ces actions-là, si vous voulez. Vous savez que sur le plan agricole, c'est la même chose. Le sol fonctionne de la même manière. Et la particularité, c'est du labour, fait que ça provoque une érosion et vous faites sortir une partie du carbone qui est contenu dans le sol. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'agriculteurs qui cultivent en semi-direct, hein, et qui ne vont plus labourer. C'est pour cette raison-là du carbone, parce que le carbone est un des premiers éléments nutritifs des plantes. C'est pas une banalité ou quelque chose d'anecdotique ou qui ne veut rien dire. Le carbone, on en a tous besoin. Nous, on en produit en respirant. Et le monde végétal fait exactement l'inverse. En respirant, il l'absorbe et il rejette et il produit de l'oxygène. Hein. Donc on est parfaitement équilibré. On a besoin de l'un et de l'autre. Et il ne doit pas y avoir, d'un point de vue environnemental, de supériorité sur le monde végétal et le monde animal. C'est important.
Alors, les grandes entreprises ont aujourd'hui l'obligation de calculer leur empreinte de carbone et doivent déposer leur rapport en préfecture de région, etc. Vous l'avez cité également pour ce qui est nouveau, le bas carbone. Qu'est-ce que ça va changer?
Écoutez, ça va changer quelque chose si ça marche déjà, parce que c'est pas parce qu'on crée un label supplémentaire que ça va marcher. Il y a beaucoup de labels qui servent à rien et qui disparaissent au bout de 2-3 ans. La particularité là, c'est que depuis la COP 1, qui a donc eu lieu à Kyoto il y a 23 ans maintenant, depuis la COP 1, il a été décidé qu'on pouvait compenser les émissions carbone en utilisant le carbone contenu dans les arbres ou dans les sols, enfin voilà, et faire des contrats dessus. Mais il avait été spécifié que n'était éligible à ces compensations que les tonnes de carbone qui étaient dans les pays du Sud. C'était une manière de subventionner l'Afrique, l'Asie, l'Inde, l'Amérique du Sud, vous comprenez? Et donc, je trouve qu'il y a un an, la Commission européenne a décidé que les tonnes de carbone des pays membres de l'Union seraient éligibles. C'est une révolution, c'est tout nouveau. Et alors, l'État français a signé, le Premier ministre a signé un décret le 29 novembre 2018, donc c'est très récent, instaurant la possibilité de compensation à partir du carbone stocké sur le sol métropolitain. Donc ça, c'est très très important, ça change complètement la donne, ça fait qu'il y a des capitaux qui avant, jusqu'à maintenant, partaient dans les pays du Sud, qui vont être dans les forêts françaises et qui vont permettre justement d'améliorer la gestion des forêts françaises et peut-être de sortir plus de bois. Parce que c'est un des problèmes qu'on a aujourd'hui en France, c'est que la forêt française, en réalité, n'est pas bien gérée. On produit plus de 100 millions de mètres cubes de bois sur pied par an en France et on ne sort que 43 millions de mètres cubes l'année dernière de la France. Donc c'est bien qu'il y a un problème. On est en période de crise et la balance commerciale, le poste de la balance commerciale de la filière forêt-bois est le premier poste déficitaire alors qu'on a 60 millions de mètres cubes qu'on ne sort pas de forêt. C'est complètement aberrant. Ça fait 40 ans que ça dure. Mais c'est un réel problème et personne n'en prend vraiment conscience. Alors, ça démarre, là, avec cette histoire de label bas carbone. Et comme c'est la forêt qui en sera le bénéficiaire, l'agriculture aussi un petit peu, pour les gens qui font de l'agroforesterie notamment, eh bien, ça va probablement changer un peu les choses.
Le ciment dans les plaines coule jusqu'aux montagnes, poison dans les fontaines, dans nos campagnes. Le cyclone en rafale, notre histoire prend l'eau. Est-ce notre idéal, faire les beaux? Existence. De l'équateur au pôle, ce poids sur nos épaules, de squatteur éphémère, maintenant c'est plus trop. Puisqu'il faut changer les choses,
oh, ça, citoyen,
il est grand temps qu'on propose
un monde pour demain.
Aux arbres, aux citoyens, qui
Vous êtes toujours à l'écoute de votre magazine Planète Environnement sur l'antenne de Radio Alpes-Mancel 106.3 FM. Nous retrouvons Pascal Yvon pour la société Carbone Forest qui permet aux entreprises notamment d'agir en faveur de l'environnement en compensant leur empreinte carbone.
Alors, par rapport à ces forêts, cette gestion de forêts, etc., ces forêts en tout cas où on peut eh bien, acheter du carbone via Carbone Forest par exemple, c'est peut-être idiot de ma part vous demander, mais est-ce que il y en aura assez qui sont gérés de cette manière pour eh bien compenser cette empreinte de carbone?
Écoutez, ce que je crois, c'est que le fait qu'il y ait des échanges économiques peut parfois changer les habitudes et faire évoluer la manière de faire. Donc, à partir du moment où il y a des gens qui sont prêts à apporter un financement pour pouvoir améliorer la gestion de quelque chose, je pense que cette gestion va automatiquement s'améliorer. Hein? Il faut savoir que donc le label bas carbone, qui s'applique par le décret du 29 novembre, qui est donc en construction aujourd'hui au ministère de l'Environnement, mais qui existe et qui va sortir, il est déjà sorti, mais avec seulement 3 petits dossiers qui couvrent quelques centaines d'hectares, donc c'est rien du tout. Hein? Nous, on est en lice actuellement pour l'obtenir, on sera, j'espère, le quatrième dossier. Mais quand ce label va réellement fonctionner, oui, il y aura certainement assez de forêts. Et puis le jour où il n'y aura pas assez de forêts, eh bien, on investira aussi sur de la terre agricole pour pousser justement à avoir une gestion plus environnementale de la terre agricole. Hein. Il y a 50 ans, nos grands-pères ne mettaient rien, ils mettaient pas des fluants, ils mettaient que du fumier. Aujourd'hui, on parle beaucoup du Roundup. Alors le problème, c'est que on ne peut pas du soir au matin arrêter de mettre du Roundup dans un champ. Ça marche pas comme ça. C'est pas possible. La terre a pris une telle habitude en culture intensive, on est obligé de détruire certaines plantes qui viennent nous gêner, sinon on a une perte de rendement importante. Alors la vraie question, en fait, c'est le coût de la production. Parce que on sait faire avec moins de Roundup ou même sans Roundup, mais on produit moins. Et ce qui ne gênait pas il y a 40 ans en France, donc le fait de produire moins, aujourd'hui nous gêne parce qu'il y a des marchés gigantesques et voilà. Et bon. Il faut fournir ce que l'on nous demande. Alors, moi, ce que je pense, c'est qu'il va falloir justement qu'il y ait des sources de financement qui permettent de cultiver avec un rendement moins élevé et donc avec un coût de revient plus cher. Et ça passe peut-être par des contrats comme le nôtre pour qu'il y ait des entreprises qui aident à faire ça. Mais en réalité, aujourd'hui, il n'est pas le coût de production de permet de nous alimenter, que ce soit le lait ou les céréales ou les aliments pour les animaux. Le coût est beaucoup plus élevé. C'est bien pour ça qu'on est obligé d'avoir des primes PAC, parce que l'agriculture n'est pas rentable. Et en fait, le Français, lui, il n'est pas d'accord pour payer un peu plus cher dans le supermarché. Ah. C'est ça le problème. Alors, on est dans un monde où tout le monde se heurte, les agriculteurs, les commerçants, les consommateurs. Mais en réalité, on a tous le même objectif, je pense. C'est d'avoir le moins possible de cancer, et ça passe par une alimentation meilleure. C'est d'avoir suffisamment à manger pour toute la population et de toute la planète. Voilà, on a les mêmes objectifs. Mais aujourd'hui, on est dans un monde fou où on force les agriculteurs à produire pour rien. Et ça, c'est pas normal. Donc, j'espère, moi, dans un projet comme le nôtre, qu'il puisse un jour rebondir aussi sur la question agricole. D'ailleurs, on a un volet d'activité sur la question agricole. On est aujourd'hui dans le cadre d'une étude assez longue sur les process environnementaux et notamment sur les process agricoles, où on regarde comment produire en faisant moins de nitrates et en utilisant moins de pesticides.
Et au jour d'aujourd'hui, combien ça coûte? Par exemple, l'entreprise veut compenser son empreinte carbone par rapport à une tonne. Combien ça coûte?
La tonne de carbone, Nous, on est à 50 euros. On la commercialise à 50 euros. Dedans, vous avez 4 tonnes de CO2. Et la tonne de CO2, aujourd'hui, en France, elle est elle navigue entre 10 et 15 euros de la tonne selon les marchés. Voilà. Donc, vous voyez qu'on est à peu près au même prix. D'un côté, on est entre 40 et 60, et nous, on est à 50. Donc, on est pile au milieu. Une entreprise qui veut compenser 100 tonnes de carbone par an, ça lui coûtera 5000 euros. Voilà.
Au niveau des personnes qui voudraient en savoir plus, se renseigner et vous rencontrer, voir comment ça fonctionne, est-ce que vous avez des contacts à nous communiquer?
Alors écoutez, on a un site internet qui s'appelle Carbon Forest. Il suffit de taper sur Google Carbon Forest, CARBONFOREST.
Bien écoutez, c'était un plaisir de vous avoir sur l'antenne de Radio Alpes. En fait, on invite nos auditeurs et bien à se renseigner, à avoir plus d'informations sur le www.carbon-forest.com et à se renseigner bien sur l'empreinte écologique que nous pouvons nous avoir à propre niveau. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt.
Merci beaucoup, à
bientôt. Merci, au revoir.